Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bien, bonsoir aux auditrices, aux auditeurs, de Principe Actif, où j'articule. Amnesty International Évreux, notre dernière, décidément. À chaque fois, je me trompe, je prends la première pour la dernière et inversement. Notre dernière émission du mois de mai, vu qu'on est le 29 mai, c'est ça ? On est le 29 mai, hein ?
Oui.
Bon, j'ai tout bon, là. Dernière émission du mois de mai, avant celle de juin, bien évidemment. Et pour l'animer avec moi, il y a Sabine.
Bonsoir.
Il y a Mina.
Bonsoir.
Et il y a Ronan.
Bonsoir.
Derrière ses boutons.
Et Didier.
Et merci. Merci. Merci à Sabine, effectivement. Donc, c'est une équipe un peu différente de la dernière fois, mais tant mieux.
C'est différent à chaque fois.
Il y a eu des gens qui se sont répétés plusieurs fois de suite. C'est pas grave, c'est des hasards du calendrier. Hein, donc voilà. Alors, ce soir, on a, comme d'habitude, pas mal de sujets à propos des droits humains pour les promouvoir et les défendre. Et puis contester, et puis s'énerver autour, et puis dire ce qui va mieux et dire ce qui va moins bien, comme d'habitude. Et donc, on va vous parler de l'Irlande, on va vous parler de la Turquie, on va vous parler aussi de ce qui se passe en France, toujours par rapport aux réfugiés, et puis d'autres sujets. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Pour commencer, j'ai posé le quiz avant de l'émission. Alors, je vais pas le refaire parce que comme on a préparé l'émission tout à l'heure, je vais pas le refaire. C'est qu'est-ce qui s'était passé face à Ronan qui va vous le dire. Qu'est-ce qui s'est passé le 28 mai 1961?
Ah, moi, je sais plus, j'ai un trou de mémoire.
Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
C'était pas la création d'Amnesty International.
C'est ça. En fait, c'était la publication par Peter Bedenson, avocat britannique. Du premier article qui a fondé Amnesty, qui était l'article qui s'appelait « Les prisonniers oubliés », consacré principalement à des étudiants qui étaient au Portugal, qui étaient emprisonnés parce qu'ils avaient porté un toast à la liberté. Le Portugal était une dictature à l'époque. Et donc, Peter Bedenson s'en est profondément ému et a réclamé leur libération dans un article qui s'appelait « Les prisonniers oubliés », en appelant le public à se mobiliser. Suite à cet article, il a reçu en fait des milliers et des milliers de soutiens. L'article a été repris dans plusieurs journaux en dehors de la Grande-Bretagne, dont Le Monde en France, j'ai appris ça aujourd'hui en regardant. Le Monde l'avait publié aussi à l'époque. Et donc il a reçu des milliers d'articles de soutien, et c'est ce qui lui a donné de fonder ce qui est devenu, 2 mois après, donc c'était très rapide, Amnesty International. Voilà. Donc c'était hier, c'était notre anniversaire à nous. Aujourd'hui, on a une autre information qui concerne aussi quelqu'un qui a été investi à Amnesty depuis plus de 30 ans, mais dont on vient d'apprendre malheureusement le décès. C'était dans la nuit de vendredi à samedi dernier. C'était un chercheur. Alors, les chercheurs d'Amnesty, vous allez me dire, c'est qui ces gens-là, pour ceux qui ne sont pas au courant? Amnesty, pour établir ses dossiers, pour établir ses enquêtes et pour les publier à travers le monde, pour inciter les gens à agir, une équipe d'au moins une centaine d'équipes de chercheurs qui dépendent du secrétariat international et qui sillonnent le monde à longueur d'année. Ce sont des permanents, bien sûr, qui sillonnent le monde à longueur d'année pour relever ce qui ne va pas, pour établir ces rapports, ces fameux rapports d'Amnesty qui n'ont jamais été contestés par personne parce que tous les faits ont toujours été prouvés depuis plus de 50 ans. Et donc cette action-là repose sur les recherches faites par ces équipes de chercheurs principalement. Et donc Gaëtan était un chercheur un peu spécialisé dans l'Afrique de l'Ouest. C'était un franco-mauricien qui travaillait pour le secrétariat international, mais qui avait son bureau à Paris, au secrétariat national. Donc les gens du secrétariat, bien sûr, étaient assez, assez émus d'apprendre sa mort très brutale. Il avait 65 ans. Et donc, nous, on n'a jamais eu l'occasion de le rencontrer ici, le groupe d'Évreux, mais moi, j'avais vu son nom à plein de reprises, et puis on avait vu son nom aussi sur des rapports, bien sûr, publiés par Amnesty. Et c'est quelqu'un qui était très apprécié par tout le monde, visiblement. Alors j'ai trouvé un article que je vais vous lire, là, qui n'est pas très long, qui a été publié aujourd'hui par le directeur d'Amnesty Belgique, qui s'appelle Philippe Hensmans, et qui était un ami très proche de Gaëtan Mboutou. Voilà, donc ça commence comme ça. Comment vas-tu, mon cher Philippe ? C'est par ces mots que Gaëtan Moutou commençait ces nombreuses conversations téléphoniques que nous avons eues tout au long de ces dizaines d'années, où j'ai eu l'honneur de travailler avec lui avant qu'il nous quitte brutalement dans cette nuit maudite de vendredi à samedi. D'une classe irréprochable, presque dandy, même au cœur de la brousse, Gaëtan était surtout quelqu'un pour qui l'humain signifiait quelque chose. Il était sans cesse à l'écoute, prêt à entendre le plus pauvre individu. À travers toute l'Afrique de l'Ouest, il a été un cauchemar pour les dirigeants de ces pays-là, car il représentait la vérité et leur renvoyait à la face la souffrance qu'il avait su entendre sur le terrain et lors de ses innombrables rencontres sur le terrain ou à Paris. Même si ses dirigeants avaient parfois pu survivre grâce à lui lorsqu'ils étaient eux-mêmes des opposants malmenés. L'un d'eux l'appela d'ailleurs un jour à la maison en lui disant « Mais enfin, Gaëtan, c'est quoi ce rapport ? On se connaît quand même depuis longtemps. » « Justement, lui répondit Gaëtan, tu devrais savoir que ce serait ton tour, si tu te permets de telles choses. » Il exigeait des comptes, mais il en rendait aussi. Ainsi, j'ai eu l'occasion avec Alex Névé de le voir rendre victime à des victimes en Côte d'Ivoire pour leur montrer le rapport qu'il avait écrit sur la base de leurs témoignages. Il prenait le temps de feuilleter avec elle le rapport, soulignant du doigt les passages les concernant, le lisant pour celles qui ne savaient pas lire. Pas besoin de grandes théories sur l'implication des victimes dans les processus de changement. Il les mettait en œuvre depuis longtemps déjà. Gaëtan n'était pas narcissique. Il a toujours préféré travailler dans l'ombre. Mais ne nous y trompons pas. Ce fut sans doute l'un des plus grands influenceurs de cette région d'Afrique, que cette région d'Afrique ait connue. Il a obtenu maints changements et améliorations qui auraient dû lui valoir de nombreux prix et médailles. Mais il n'en avait rien à cirer. Ce sont les droits humains, à travers une fidélité sans épreuve à Amnesty, qui le guidaient dans la notoriété. Gaëtan était aussi quelqu'un qui nous donnait l'impression d'être la seule personne qui compte au monde. Patient, il prenait le temps de vous apprendre avec délicatesse et finesse les bases du métier. Et surtout, il a accompagné des générations entières de défenseurs des droits humains. Encore tout récemment, j'ai eu l'occasion de parler avec un couple de défenseurs de la région qu'il m'avait présenté. Ces derniers m'ont expliqué en long et en large comment ils les aidaient pour préparer le travail de plaidoyer à l'occasion d'un sommet régional de chefs d'État. Gaëtan n'avait pas d'horaire non plus. Il travaillait de façon inimaginable, se dépensant sans compter. On avait envie de lui dire régulièrement « Mais arrête-toi un petit peu !» Mais le monde n'attendait pas. Et le monde l'a rattrapé peut-être. Sa mort violente fait un trou dans mon cœur comme à des milliers de personnes un peu partout dans le monde. Mais la vigueur de son engagement doit nous pousser à continuer le combat. Ça va être triste et difficile, mais il le faut. Merci pour tout. Voilà, donc je voulais rendre ce petit hommage à Gaëtan, et puis on a décidé effectivement aussi de lui dédier l'émission. Donc voilà, on déduit l'émission de ce soir à la mémoire de Gaëtan Moutou, chercheur pour Amnesty International sur l'Afrique de l'Ouest depuis 30 ans, et mort brutalement en fin de semaine dernière. Voilà. Et puis on pense à tous les gens du SN qui travaillent, du secrétariat national, pardon, qui travaillaient avec lui et qui souffrent encore plus, c'est sûr, de sa disparition.
Il faisait partie des gens engagés qui en veulent.
Tout à fait. Si vous êtes intéressé, vous avez sur le site de RFI, Radio France Internationale, vous avez un article sur lui. Et il y a aussi une vidéo, on le voit interviewé par un média africain, je ne sais plus lequel, à l'occasion d'une émission de télévision. Je ne l'ai pas récupéré parce que je l'ai écouté aujourd'hui, mais ça durait assez longtemps. Et puis donc, ce n'était pas très, 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 très parlant par rapport à ce qu'on allait vous dire aujourd'hui. Mais vous allez sur le site de RFI, vous pouvez l'entendre et le voir. Ça remonte il y a quelques années, mais ce n'est pas très vieux. Voilà. Donc on avait dit, pour continuer, qu'on allait vous parler, maintenant qu'on a parlé un peu d'une chose un peu difficile, le décès de quelqu'un c'est jamais très, très gai, d'une bonne nouvelle qui s'est passée en Irlande, mais c'est Mina qui doit vous en parler.
Effectivement, récemment, excusez-moi je règle mon micro, je suis trop
petite. Mina est petite, elle a toujours des problèmes de hauteur de micro.
La victoire historique du oui au référendum sur l'avortement adresse au monde entier un message d'espoir. Donc effectivement, le oui l'a emporté à 66,4%. Ce résultat historique est une victoire pour l'égalité, la dignité, le respect et la compassion. C'est une victoire pour l'Irlande de demain, où les droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles seront respectés et protégés. Ce référendum obtenu de haute lutte va permettre aux Irlandais de se prononcer sur la suppression du 8e amendement à la Constitution, qui date de 35 ans, interdisant l'avortement dans toutes les circonstances, sauf lorsque la vie d'une femme enceinte est menacée. Cette disposition faisait de la législation irlandaise sur l'avortement l'une des plus restrictives au monde. Elle portait atteinte aux droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles, notamment à leur droit à la santé, à la vie privée, à la vie, à l'égalité et à la non-discrimination et au droit de ne pas subir des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Chaque jour, près de 10 femmes et jeunes filles quittaient l'Irlande pour subir un avortement à l'étranger et près de 3 femmes et jeunes filles prenaient une pilule abortive importée sans aucun soutien médical en utilisant ces pilules abortives en Irlande. Elle s'expose à de possibles sanctions pénales, notamment des peines pouvant aller jusqu'à 14 ans de prison. Il faut bien constater que du coup, ça devenait illégal de se protéger, d'être digne et de vouloir vivre. Et, mais aujourd'hui, grâce au vote, oui, 66%, les femmes vont avoir le droit à l'avortement en 2018. Il faut le souligner. La section Irlande Amnesty s'est mobilisée sur ce référendum et pour l'adoption d'une loi sur l'avortement qui soit enfin respectueuse des droits humains depuis de nombreuses années. Dire oui au référendum était donc crucial. Ce référendum a été obtenu à l'issue d'un combat long et difficile. 10 gouvernements et une campagne publique, 35 ans, pour en arriver là. Entre-temps, la législation irlandaise a causé de grandes souffrances et s'est même traduite par des pertes humaines. Voter oui, c'est voter pour l'égalité, la dignité, le respect et la compassion. C'est un vote pour un futur où les droits des femmes et des filles sont respectés et protégés en Irlande. C'est un vote en faveur de l'espoir et de la fin de l'exil pour les femmes ayant besoin de recevoir des soins de santé en toute sécurité. L'enjeu du référendum n'était pas de déterminer s'il y aura des avortements en Irlande. Les 3 décennies passées ont montré que le 8e amendement n'a pas mis un terme à la nécessité pour les femmes de recourir à des services d'avortement. Ce vote permettra aux femmes d'avoir accès à des soins en toute sécurité, tout en étant traitées avec compassion et dignité. Voilà, ce petit message d'espoir, comme quoi faut toujours se battre
bonne chose.
Pour que les droits humains soient respectés.
C'est une nouvelle importante, c'est sûr. Et bon, on ne va pas en dire plus aujourd'hui parce qu'on est bien persuadé que Clara, qui doit participer à la prochaine émission et qui est très mobilisée pour le combat pour le droit à l'avortement, ce qui est tout à fait normal, vous en reparlera plus en détail. Donc on va lui laisser l'occasion de le faire à la prochaine émission. Ne ratez pas nos émissions, c'est une façon de vous le dire aussi. Donc on va juste vous dire ça pour aujourd'hui. Mais il y avait aussi une autre bonne nouvelle, après le droit à l'avortement en Irlande, dont on voulait vous parler, Ronan.
Alors la bonne nouvelle, ça se trouve en Malaisie. Un prisonnier d'opinion enfin libéré. La libération d'Anwar Ibrahim, leader malaisien de l'opposition et prisonnier d'opinion, marque un tournant dans ce pays. Nous faisons campagne en sa faveur depuis 20 ans. Il a été arrêté une première fois en 1998 alors qu'il était vice-premier ministre après avoir appelé à la réforme politique. Limogé du gouvernement, il a été inculpé de corruption et d'actes homosexuels illégaux. Des accusations qu'il a toujours niées. Anwar avait été passé à tabac en garde à vue, puis déclaré coupable de corruption en 1999 et de sodomie en 2000. Il est resté en prison jusqu'en 2004 lorsque sa condamnation a été annulée. La seconde affaire de sodomie visant Anwar a démarré en 2008. La haute cour de Malaisie l'avait blanchi dans toutes ses charges en 2012, mais la cour d'appel avait annulé sa décision en mars 2014, la condamnation à 5 années d'emprisonnement. Donc sa condamnation l'a empêché d'occuper les fonctions politiques et de présenter aux élections générales de 2018. Donc c'est une bonne nouvelle. Normalement, il devrait être libéré au mois de juin. Il devrait à nouveau arriver dans la vie politique au niveau de la Malaisie.
D'accord. Faudra vérifier que ce soit bien le cas quand même.
Et ça fait quand même 20 ans qu'il est conjoint pour lui qu'il est en prison. Quoi.
Ouais. Une bonne nouvelle, mais très...
Très, très tardive.
C'est comme une bonne nouvelle.
Oui, bah, bien sûr.
Qui est libéré.
Évidemment, même si on sait très bien que malheureusement, les combats, on ne les gagne pas forcément, facilement, rapidement.
En plus, à chaque fois, sa condamnation a été annulée, mais à chaque fois, il restait comme en prison. En fait.
Il y a des choses absolument, voilà. Moi, je vais vous parler maintenant on va changer d'endroit, mais vous parler aussi de quelqu'un qui est toujours en prison et dont on réclame la libération. De façon très engagée. On s'engage beaucoup pour sa libération. Voilà, c'est ce que je vais arriver à le dire. C'est le président d'Amnesty International Turquie. Taner Kilic. On a déjà parlé dans les émissions, mais là, ça veut, on en parle parce que ça fera un an, le 6 juin prochain, donc très bientôt, que Taner Kilic est en prison, en Turquie, pour avoir strictement rien fait, si ce n'est défendre les droits humains, ce qui est tout à fait évident pour le président d'une section comme Amnesty International. Et donc, il est en prison pour ça. Alors, pour officiellement, hein, bien sûr, ça n'a pas été dit comme ça. On l'a inculpé pour une sombre histoire de téléchargement de messagerie interdite sur son téléphone portable. La preuve du contraire a été donnée, et quand bien même. Mais de toute façon, effectivement, il a failli être libéré au mois de janvier, mais ça n'a duré que même pas une journée, pour avant d'être réenfermé. Et il a pu s'exprimer pour une seule phrase et dire « Je suis maintenu en prison uniquement parce que je suis défenseur des droits humains en Turquie et président d'Amnesty International ». Donc voilà, par rapport à lui, donc, on refait une campagne, bien évidemment, pour exiger sa libération, en disant un an, le 6 juin, c'est largement assez, et c'était déjà trop, puisqu'il n'aurait jamais dû y passer un seul jour en prison. Mais bon, ça m'a donné l'occasion de récupérer un petit dossier d'Amnesty, alors je vais vous le résumer, par rapport à la situation plus générale en Turquie, en dehors de qui est un pays où il y a une grande, grande répression, comme vous le savez. J'en ai déjà parlé dans d'autres émissions, on revenait sur nos podcasts. Mais bon, simplement, c'est un petit état des lieux, là, assez récent, fait par Amnesty. Alors, qui dit les choses suivantes. Il est dangereux d'exprimer son opinion en Turquie. Alors que l'état d'urgence a été déclaré dans le pays depuis bientôt 2 ans, les défenseurs des droits humains vivent dans une crainte permanente. Ils connaissent tous de nombreux autres défenseurs des droits humains qui ont déjà été arrêtés, poursuivis en justice ou menacés lorsqu'ils ne l'ont pas été eux-mêmes. Ils font attention à ce qu'ils disent, écrivent ou diffusent sur Twitter, par exemple. Ils ont un sac de voyage prêt au cas où la police viendrait frapper à leur porte à l'aube pour les emmener. Leurs organisations subissent aussi la répression. Certaines ont même fait l'objet d'une fermeture sommaire et de nombreuses personnes qui avaient besoin de leur soutien se sont retrouvées démunies. Rien de tout cela n'est fortuit. Il s'agit d'une tentative délibérée de démanteler la société civile indépendante. Voilà pourquoi nous devons parler de la Turquie. Donc, un peu plus loin, ce rapport dit « Le gouvernement use de son pouvoir pour réduire au silence et emprisonner les défenseurs des droits humains, les journalistes, les avocats, les universitaires, comme le président honoraire d'Amnesty International, comme on vous le disait. Il s'agit d'une stratégie délibérée qui vise à intimider et à faire taire toutes les personnes qui contestent son action. » L'action du gouvernement, bien évidemment. Et le pouvoir exécutif, avec M. Erdogan, président, s'attaque aussi, bien évidemment, à un système juridique qu'il a démantelé, un système juridique en Turquie qui ne fonctionne plus. L'équité des procès est un principe qui semble de plus en plus utopique en Turquie. Selon les estimations, plusieurs centaines d'avocats font l'objet d'une information judiciaire dans le cadre de la répression lancée à la suite de la tentative de coup d'État. Cela fait partie d'une offensive contre le système judiciaire qui vise également les juges, les procureurs et les autres représentants de l'État. Alors il y a des chiffres qui sont donnés là dans ce rapport, qui sont quand même suffisamment éloquents, et encore je pense qu'ils n'ont pas été remis à jour depuis au moins 2-3 mois, mais on en était à 100 000 personnes qui ont fait l'objet de poursuites pénales, 180 médias fermés, parce qu'on imagine, presse, journaux, radio, télévision, etc. 250 universitaires sont poursuivis actuellement pour avoir appelé à la paix. 50 000 personnes sont en attente de jugement, alors qu'elles n'ont commis aucun délit, elles ont simplement lutté pour leurs droits ou pour les droits des autres. 120 journalistes et professionnels des médias sont emprisonnés, et encore, je pense que le chiffre est encore supérieur maintenant, à ce chiffre-là. Et 1300 associations, tout ça en moins de 2 ans, et 1300 associations et ONG ont été fermées. Et bien évidemment que le pouvoir turc aimerait bien fermer Amnesty International Turquie. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, un exemple d'association fermée, l'association VAN pour les femmes, qui s'appelle VAKAD, qui était une organisation dynamique qui participait à la prévention des violences faites aux femmes et aux filles dans l'est de la Turquie. C'est vrai que lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, c'est effectivement nuire au pouvoir de l'État. Et c'est humoristique, ce que je dis. Et donc cette association a été fermée par décret exécutif le 22 novembre 2016. Aujourd'hui, dans la région, plus personne ne remplit cette mission essentielle qui sauvait des vies. Bien sûr, la lutte se poursuit aussi contre les LGBT. Les conséquences de la répression sur la société civile sont immenses, notamment pour la communauté LGBT. LGBT, c'est les lesbiens, gays, bisexuels, bi et transsexuels. Les organisations LGBT auparavant dynamiques et en plein essor ont le sentiment qu'on les pousse à retourner dans la clandestinité. Elles signalent une nette recrudescence des campagnes d'intimidation et de harcèlement qui visent des personnes et des manifestations. Alors voilà, ça c'est un tout petit résumé. Hein. Vous avez le rapport plus complet sur le site d'Amnesty, hein, amnesty.fr, si ça vous intéresse. Vous allez dans la rubrique Turquie et puis vous verrez effectivement ce rapport de façon plus complète. Mais Amnesty le conclut quand même de la façon suivante. Que faut-il faire ? On se demande toujours effectivement à quoi on peut servir. C'est essentiel. Alors Amnesty dit « La Turquie peut et doit lever l'état d'urgence et annuler les décrets pris dans le cadre de celui-ci qui vont au-delà des mesures légitimes pour combattre la menace à la sécurité nationale. Les défenseurs des droits humains doivent être libérés. Ces personnes doivent pouvoir faire leur travail sans craindre d'être persécutées, emprisonnées ou poursuivies. Quant à la communauté internationale, elle doit peser de tout son poids et user de toute son influence pour inciter la Turquie à créer un environnement dans lequel les droits de toutes et de tous seront respectés, comme tous les défenseurs de ces droits. » Voilà. Donc on conclut notre appel aussi en faisant appel à la communauté internationale, et plus spécifiquement ici, hein, M. Macron qui est président et qui s'était engagé dans la campagne électorale à être absolument intraitable du côté des défenseurs des droits humains. Et ben, usez de votre pouvoir au niveau de l'Union européenne ou autre, mais usez de votre pouvoir pour essayer de faire comprendre à M. Erdogan que son gouvernement est un gouvernement inique. Voilà. Donc ça c'était mon petit coup de gueule aussi à moi là sur la Turquie, et donc mais bon, on vous rappelle que donc le 6 juin prochain, Taner Kilic sera emprisonné avec beaucoup d'autres, hein, évidemment on n'oublie pas les autres, hein, sera en prison depuis un an et qu'il a strictement commis bien évidemment aucun délit. Quelques morceaux de musique.
L'abattoir et qu'au mieux, on envoie paître, boire et brouter là où la bête, bébé, est plus facile à traire. Aussi, petit agneau qui tête encore ta mère, méfie-toi du bord des eaux troubles où l'on peut voir flotter les narines et l'œil opaque des gros reptiles à quatre pattes qui te guettent pour te happer et te croquer tout coup pris en tenaille dans les mâchoires de crocodile. Bien, crocodile, crocodile. Ni pitié ni cadeau, serré sous les crocs du crocodile. On est de plus en plus, de moins en moins, cerné par les discours, plein d'astuces et de consensus, des engraisseurs de porcs qui nous sucent le cortex. On est de plus en plus enchaînés au rouage de la machine qui s'emballe, nous entraîne en spirale vers le bas, vers le chaos. Aussi, gracile antilope, charmant facochère, méfie-toi des violents coups de queue du caïman à lunettes. Le plus racaille, le plus retors, les crocodiles. Crocodile, crocodile. Bourrage de crâne, lavage de cerveau, crocodile. Crocodile, crocodile. Ni pitié ni cadeau, entre les couilles du crocodile. Parfois, je l'avoue, une certaine sympathie pour le crocodile du Nil et le gavial de Birmanie. Dans la cruauté cannibale, la férocité inouïe les classe au top de toutes les espèces en voie de désintégration. Mais si tu finis par l'avoir, tu pourras faire le beau Shanghai, Jakarta ou Bornéo. En fou léopard, avec un jean en sky, une cape, un sac, des bagues et des boots, et des lunettes en écaille. Crocodile, crocodile, crocodile. Ni pitié ni cadeau, mais on tenaille entre les coups du crocodile. Ni drapeau ni médaille, serré dans les mâchoires du crocodile. Crocodile, crocodile, pris dans ses entrailles. Crocodile, crocodile.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International Évreux, pour sa deuxième émission mensuelle du mois de mai. On vient d'écouter, on continue notre hommage à Jacques Higelin, hein, comme on l'aime tous au niveau du groupe. Donc voilà, continue à faire un petit coup de chapeau à l'artiste.
Et au donc, grand monsieur.
Au grand monsieur. Ouais. Et on vient d'entendre Crocodile, donc de Jacques Higelin, sur un de ses derniers disques. C'est un disque qui est assez récent. Voilà, donc après cette pause musicale, il y avait Ronan qui voulait s'énerver un peu.
Bon,
après,
non, c'est un gros mot.
Après, je crois, un pays européen.
Ben justement, qui fait partie de l'Union européenne. C'est pas à l'Hongrie, quoi. L'inquiétante fermeture du siège d'Open Society Foundation en Hongrie. Open Society Foundation a annoncé le 15 mai qu'elle mettait un terme à ses activités internationales depuis Budapest et qu'elle transférait son siège à Berlin. Symptôme d'attaque en règle du gouvernement contre les ONG. C'est une guerre prolongée du gouvernement hongrois contre les ONG, dont la dernière attaque a été la proposition de l'ensemble des lois anti-ONG que le Parlement se prépare à étudier avant la fin du mois. OSF a déclaré qu'il était devenu impossible de garantir la sécurité de ses opérations et de leur personnel en Hongrie en raison d'interférences arbitraires de la part du gouvernement. Des menaces d'une extrême gravité pèsent sur les organisations de défense des droits humains dans ce pays. Ces organisations soutiennent et représentent des dizaines de milliers de personnes. En les attaquant, le gouvernement néglige les besoins de ces personnes. S'il obtient ce qu'il veut et que l'Hongrie ne dispose plus d'ONG de défense des droits humains, les personnes vulnérables seront abandonnées sans aide ni soutien. Cela ne concerne pas seulement les ONG attaquées, mais aussi la vie de tout un chacun. Depuis plusieurs années, le gouvernement hongrois tente de jeter le discrédit sur les organisations de la société civile. Le travail parlementaire autour de la loi anti-ONG va démarrer prochainement. Nous resterons aux côtés de la société civile pour empêcher que ce projet de loi liberticide ne passe en Hongrie. Donc c'est quand même pas loin de chez nous, et ça, je ne vais pas dire, mais c'est l'extrême droite qui...
Ouais.
Qui nous emmerde,
oui, c'est ça.
Bah, excuse-moi, il n'y a pas d'autre.
Non, c'est ça. Et puis, on a parlé de la répression contre la section turque d'Amnesty à l'instant, juste avant la pause musicale, et il y a aussi une répression. Disons que les autorités hongroises aimeraient bien aussi que la section de Hongrie, donc d'Amnesty, effectivement, aussi ferme ses portes. Ça leur plairait bien, ça.
Et comme c'est l'île dans le communiqué, il n'y a plus d'ONG, alors ils font ce qu'ils veulent, quoi.
Oui, bah, c'est sûr. Bon, on va changer de sujet. Il y avait Sabine, qui est à côté de moi, qui voulait vous parler, je crois, d'enfants et de réfugiés enfants, c'est ça, si j'ai bien compris,
ouais.
Par rapport à un bouquin. Bon, vas-y, dis-nous tout.
Quelques passages du livre de Rosane Lebert, De rêve et de papier, ou 547 jours avec des mineurs isolés étrangers. Aux éditions La Découverte. Durant un an et demi, donc je prends pas mal de passages, et peut-être que je vous en ferai part dans d'autres émissions encore. Donc durant un an et demi, Rosane a travaillé dans un service d'accueil pour jeunes exilés, arrivés en France sans leurs parents. Récits de jeunes qui traînent des valises de souvenirs acides, mais que la fureur de vivre maintient debout. Dans son livre, elle propose d'aller à la rencontre de jeunes malmenés par l'exil et le labyrinthe administratif français, mais qui parviennent pour certains à se reconstruire, à sourire, à ne plus avoir peur, à vivre au lieu de survivre. Rosane est née en 1988. Après des études de Sciences Po, elle s'oriente vers le travail social et le journalisme. C'est son premier livre. Donc j'avais envie de vous faire part de certains témoignages, passages de son livre d'histoire qui sont arrivés, continuent d'arriver tous les jours dans un bureau où sont accueillis des jeunes qui se présentent comme mineurs isolés étrangers. Statut garantissant normalement la scolarisation, l'hébergement et surtout le droit de rester en France. Ils doivent convaincre qu'ils ont moins de 18 ans et qu'ils sont en France sans leurs parents. S'ils y parviennent, ils seront reconnus mineurs isolés, étrangers et pris en charge par des conseils départementaux via l'aide sociale à l'enfance. Sinon, ils deviennent des sans-papiers. En 2016, selon les données du ministère de la Justice, 8054 jeunes ont été déclarés mineurs isolés étrangers. Rosen a eu envie de nous dire comment ils en sont arrivés là. J'ai repris des passages de son livre et en reprendrai d'autres pour que l'on comprenne mieux le cheminement douloureux de ces jeunes et souvent notre non-accueil. En Angola, petit traité de commerce très lucratif. C'est l'histoire de Gusto qui arrive en avion, abandonné par son passeur à l'arrivée. Méthode des passeurs pour gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Il trouve un bambin dont les jambes savent danser avec un ballon de foot. On lui fait miroiter l'Europe, on convainc la famille, on construit un rêve de gloire et d'euros que l'on place dans l'esprit du gosse, dans un petit coin juste entre l'envie et l'espoir. On promet à la famille le jackpot qui arrivera tous les mois par Western Union. La famille investit, vend une maison, un terrain, des vaches, ou la petite sœur en mariage, paie le passeur pour envoyer le jeune prodige en Europe. Le petit va nous manquer, mais c'est bien pour lui. Mais dans la vraie vie, les passeurs prennent l'argent en famille, envoient le gosse en Europe et l'abandonnent. Parfois, poussent le vice à la perversion jusqu'au bout, en le laissant sur un terrain de foot d'une banlieue miteuse. Augusto, abusé par le passeur, raconte comment sa famille s'est sacrifiée pour lui. Il dit que son manteau, donné par le passeur, porte le blason du club de foot dans lequel il devait jouer. En guise de blason, c'est une banale marque de vêtements. On dit à Augusto, je crois qu'il t'a menti. Il faut regarder son visage pour comprendre ce qu'est réellement la désillusion et le rêve qui se transforme en cauchemar. Ah, c'est l'histoire d'Augusto, et il y en a plein comme lui. Soulé, un jeune Malien, traversé éprouvante du désert, a obtenu une place à bord d'un plateau arrière d'un pick-up au milieu, ce qui le rassure, car ceux qui sont sur les extrémités ne peuvent ni s'endormir, ni s'évanouir, au risque de tomber, et les chauffeurs ne s'arrêtent pas. Chavirer peut signifier mourir en plein désert. 27 passagers entassés à l'arrière, corps mélangés, chacun avec son bidon de 5 litres d'eau, serré contre leur corps ou attaché à la ceinture. Il faudra arriver au bout avant l'épuisement du bidon. Ceux qui ont basculé dans le vide se dessèchent sous l'action impitoyable du soleil. Chacune des apparitions brutales de la mort provoque une brûlure dans le ventre de Soulé. Les cadavres enfouis l'avertissent que ce qui peut arriver en partant ainsi à l'aventure, Lui qui croit arriver vivant en Europe. Quand la voiture s'arrête, personne ne bouge. Impossible de s'extirper du véhicule sans coordination générale, tant les corps sont imbriqués. Nous sommes devant un barrage. Deux règles ici. Ne pas regarder dans les yeux et obéir. Soulé comprend que cet arrêt, en plein désert, n'augure rien de bon. Bientôt, il se retrouve au sol, à genoux, les mains sur la tête alignées. Deux fûts le long de la piste, entre les deux un filin. Voilà le barrage. Autour de ce barrage, une dizaine d'hommes qui portent un immense chèche, qui dissimulent les traits de leur visage pour ne laisser émerger que leur regard, regard d'ados ou de très jeunes adultes devenus fous sous l'action de la drogue. Leurs fines mains paraissent presque fragiles sur le manche épais des kalachnikovs. On dirait des enfants qui jouent à la guerre. « Ici, vous êtes chez nous », dit-il en tournant autour des 27 hommes agenouillés, en s'amusant à les pointer de son arme avant de l'orienter vers le ciel en riant. Voilà comment cela va se passer. Ceux qui ont un document d'identité me donneront 10 000 francs CFA. Ceux qui n'en ont pas, 20 000 francs CFA. Je vous conseille d'en trouver. Je reviens, je veux l'argent. Soulé éprouve un léger soulagement quand il apprend le montant à payer, tout en se demandant comment il est possible d'éprouver un sentiment de soulagement quand on est à genoux dans le désert entouré d'hommes armés. Entre les genoux de son voisin de droite, des larmes silencieuses ricochent sur le sable. Soulé comprend immédiatement La plainte de son voisin est parfaitement muette, mais sa peur hurle aux oreilles de Soulé. Il détache la boucle de sa ceinture, ouvre la fente qu'il a taillée avec un cutter et en sort 4 billets de 5000 francs. En place 2 dans chaque main et referme ses poings. Il déroule son bras droit vers son voisin et desserre son poing, laissant paraître les 2 billets froissés. Son voisin s'appelle Abdoulaye, malien comme lui. Soulé ne peut pas laisser les larmes d'Abdoulaye mouiller le sable sans réagir. Abdoulaye se saisit immédiatement des billets, tourne la tête légèrement pour se laisser voir, mais suffisamment pour croiser le regard de Soulé et le remercier en bambara. Il reste agenouillé pendant de longues minutes, parfois des heures. « Donnez-moi l'argent maintenant. » Il s'arrête devant un homme agenouillé, 3 rangs plus loin. Celui-là n'a pas d'argent. Il est traîné par terre pour que tout le monde puisse le voir, allongé sur le dos, tente de se recroqueviller. Un autre homme arrive, lui ouvre les bras, le maintient bloqué au sol. On lui assène un violent coup de crosse de Kalachnikov, lui frappe le ventre, nombreux coups de pied s'ensuivent. Les cris deviennent des plaintes, l'homme est secoué de spasmes. Quand tout le monde se réinstalle dans le pick-up, la teneur du silence est différente. Après plusieurs heures, le chauffeur crie « On va passer la nuit ici, en plein milieu du désert. » Soulé vérifie pour la énième fois la fente intérieure de sa ceinture que son acte de naissance s'y trouve, entouré par un morceau de sac plastique et un élastique. Ce petit papier plié est la chose la plus importante qu'il possède. Sans lui, les Blancs ne voudront jamais croire qu'il n'a que 16 ans. La nuit surgit glaciale après une journée torride éprouvante, où chaque aspiration vous brûle la gorge et les poumons. L'événement a lieu le troisième jour. Au milieu de rien, les chauffeurs les ont lâchés en plein désert. L'un d'eux leur a juste indiqué vaguement la direction de Tamadracette. D'un geste du bras nonchalant, Soulé a même cru apercevoir un rictus au coin de sa bouche. Cet homme a dû oublier qu'il était un homme, s'est dit Soulé pour lui-même. Soulé n'a pas peur, n'a pas le droit. Sa famille compte sur lui. Il faut juste ne pas mourir avant d'entrer en Europe. Après, tout ira bien. Les ados en Europe, on ne les laisse pas dans la rue, n'est-ce pas ? Il le sait.
Oui, ça c'est moins sûr qu'on ne les laisse pas dans la rue. Les auditeurs le savent bien.
C'est pour ça que je dis, n'est-ce pas ?
J'ai bien compris.
Il le sait.
Et Kerlis n'est pas là pour rebondir.
Kerlis n'est pas là, mais elle a compris aussi le message. Ouais.
Ses amis lui ont dit, il ira à l'école, aura un bon métier, on verra de l'argent à sa mère. Des heures de marche, victime de faim et de peur. Parfois, tout en marchant Soulé, perd contact avec la réalité. Son corps continue à avancer comme un automate. Ce n'est plus lui qui pilote. Il n'est pas là, plus là. D'autres fois, sa conscience revient d'un coup comme un interrupteur que l'on rallume. Il prend alors la mesure de l'absurde situation dans laquelle il se trouve. Essaye de se convaincre que c'était l'étape la plus difficile. Mais il sait qu'il se ment à lui-même. On lui a parlé de la grande eau qu'il faudra traverser juste avant l'Europe. C'est ça qui lui fait peur. Plus que tout. Mais pour l'instant, il n'y pense pas. Il faut marcher. Ne pas s'arrêter. Ne pas oublier pourquoi il est là.
Voilà. Ce sont des témoignages...
Donc, avant d'arriver, voilà ce qu'il traverse.
Ouais, ce sont des témoignages pathétiques et bouleversants. Tu peux nous rappeler le titre du livre,
Alors, Sabine? C'est deux rêves, au pluriel, et deux papiers. De Rosane Lebert, aux éditions La Découverte.
Encore une fois, ça fait tout à fait référence et c'est une illustration de tout ce que Kerlis vous dit depuis plusieurs mois dans les émissions, ouais. Quand elle est là, puisqu'elle est spécialisée, entre guillemets, au niveau d'Evreux, sur ces questions-là et qu'elle en sait beaucoup. Mais je vais juste compléter ce que vient de dire Kerlis et ça va être très rapide sur un article. Sabine. Kerlis, bah, décidément, toi, je t'appelle Kerlis. C'est pas grave. On parle des mêmes choses de toute façon. Un article qui est paru dans un journal qui n'est pas du tout la chronique d'Amnesty, qui est Télérama, pour ne pas vous le cacher. Et c'est une interview d'une thérapeute qui exerce à Paris, à l'hôpital, dans un hôpital de la région parisienne, et qui reçoit elle aussi des gens qui sont en situation de demande de réfugiés et qui les aide sur un plan thérapeutique pour essayer de sortir de leur traumatisme. Je vais juste vous lire 2 ou 3 extraits de cet article. Puis après, on écoutera un petit peu. Non, il y a une bonne nouvelle, ça, que tu voulais nous dire aussi. Non, pas tout de suite, mais tout à l'heure. Non, mais je répète l'émission à venir. Donc voilà, ce que dit la thérapeute dans cet article. Raj, Tamoul du Sri Lanka, est malade à la seule vue du riz depuis que les enfants ont été bombardés sous ses yeux lors d'une distribution de repas. Safia, malienne promise à l'excision, perd tous ses cheveux. Shabana, mère bangladaise séparée de ses enfants, est incapable de prendre soin de son bébé. Et Landry, homosexuel kényan, panique à la vue du rouge, couleur de la veste du bourreau qu'il l'a laissé pour mort. Cauchemar, hallucination, solitude abyssale, dénuement extrême forment le quotidien de ces hommes et femmes brisés par leur histoire et que le parcours de la demande d'asile en France achève d'abîmer. Et plus loin, elle dit « Tout l'enjeu pour eux est de retrouver une place dans le monde. Ce mot revient sans cesse. Ils avaient une place dans leur pays et ils l'ont perdue. Notre société juge souvent ces gens indésirables, les soupçonne d'être des menteurs et des profiteurs. C'est une violence de plus, extrêmement puissante. Nier à une personne sa place politique, citoyenne dans le monde, c'est une autre manière de la tuer. » Et enfin, bon, l'article est beaucoup plus long, mais juste pour ce petit extrait, « Le pacifisme général de ces gens, donc elle parle des gens qu'elle soigne, est incroyable au regard des violences qu'ils subissent dans notre pays. Mais en poursuivant dans cette voie, on prend des risques. Que faites-vous quand vous crevez de faim, de froid, quand vous a chassé 10 fois et détruit votre maigre abri? Quand vous n'êtes autorisé à rien, vous risquez de vous sentir autorisé à tout, y compris au pire. » Voilà, donc si vous avez l'occasion de lire cet article, alors elle s'appelle, je vais vous retrouver son nom, elle s'appelle Marie-Caroline Saglio-Yedzimirski. Elle a un nom qu'on a pu prononcer Rodan parce qu'il n'est pas facile à lire non plus.
Attends, j'en ai un pas mal après.
Et, son bouquin s'appelle « La voix de ceux qui crient ». Ça vient d'être publié chez Albin Michel. « La voix de ceux qui crient ». Et donc, c'est une thérapeute qui les reçoit 2 jours par semaine à l'hôpital, je vais vous dire où ça, hein, à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Voilà. Donc, c'est important de parler de tout ça. Et puis, on vous rappelle qu'on continue à agir avec les copains des associations. RESF s'est fait des compagnies pour la situation des migrants, des mineurs isolés, etc. Ici, localement, on vous en reparlera prochainement. Une bonne nouvelle, Renaud, c'était ça?
Tout à fait, tout à
fait. Moi, je ne m'étais pas trompé tout à l'heure.
Ouais, on en reparlera. Donc là, on va au Myanmar. Alors, la PGAM. Excusez-moi pour ma prononciation, mais bon, a été libérée le 17 avril 2018 à la faveur d'une amnistie présidentielle. Détenu depuis juin 2012, il a été torturé pendant ses interrogatoires et accusé à tort d'être membre d'une association illégale. L'Apkekan est en mauvaise santé et son état s'est détérioré lors de sa détention. Donc c'est une bonne nouvelle, il a été libéré.
Bien, voilà. On s'écoute un petit peu de musique avant de passer à la dernière partie.
Dragonflies are busy buzzing me. A seahorse says if we were in the sea, halfway from coal, halfway to diamond,
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc pour la dernière partie de l'émission, Amnesty International Évreux. On vient d'entendre un disque de R.O.M. en français, R.I.M. in English.
Ah, moi je dis R.O.M.
Qui s'appelle Beat the Drum, un groupe qui a déjà fait des soutiens à Amnesty sous différentes formes. Donc voilà, qu'on n'avait pas passé dans l'émission depuis longtemps. Pour finir l'émission, on va vous parler, Renan et moi, du Nigeria. Donc après la Turquie, la Hongrie et puis les jeunes mineurs isolés qui traversent pour venir chez nous, on va vous parler maintenant du Nigeria. Et puis pour terminer, il y a Mina qui va vous redire une petite info sur une militante d'Amnesty en France. On vous en dira pas plus tout de suite. Et puis nos infos locales pour finir, bien sûr. Alors le Nigeria, il y a un rapport d'Amnesty qui est paru le 24 mai, donc il y a très peu de temps, et qui est consacré au Nigeria. Et le rapport s'intitule, pour l'instant il a été publié qu'en anglais, moi je l'ai vu mais uniquement en anglais, il n'a pas encore été traduit, et il s'appelle « They betrayed us », ce qui veut dire en anglais « ils nous ont trahis ». Et bon, en Nigeria, c'est pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, il y a eu les histoires de terrorisme avec Boko Haram, là, la secte islamiste, qui avait kidnappé je ne sais plus combien de petites filles dans une école, et qui n'ont toujours pas d'ailleurs été retrouvées, ou très peu d'entre elles, et qui ont été absolument persécutées, maltraitées, violées, enfin, etc.
Mais celles qui ont été retrouvées, elles sont maltraitées aussi.
Voilà. Et donc, c'est ce dont on va parler. Et à la suite de ça, en fait, effectivement, il y a une partie des territoires contrôlés par Boko Haram qui ont été reprises par l'armée nigériane. L'armée nigériane a ouvert des camps. Où dans ces camps, les gens qui ont subi les pressions et les tortures de Boko Haram sont supposés être hébergés et soignés, enfin, et bien traités. Et c'est bien sûr tout à fait... il y a le micro de Sabine qui a dû tomber. Et c'est bien sûr tout à fait autre chose qui s'y passe. Donc c'est ce que dénonce Amnesty. Donc il y a des femmes déplacées, enfermées dans des camps isolés, c'est ces fameux camps, sont contraintes de devenir des compagnes de soldats en échange d'une aide humanitaire. En raison du manque de nourriture dans les camps, elles sont des milliers à être mortes de faim. Les femmes et les filles enlevées par Boko Haram sont victimes de persécutions. C'est quand même absolument insupportable, quoi. Alors le rapport commence comme ça, je vais juste vous en lire quelques lignes. Des milliers de femmes et de filles qui ont survécu à la brutalité du régime du groupe armé Boko Haram sont depuis lors victimes de nouvelles violations aux mains des forces de sécurité nigérianes qui affirment les secourir. Il est choquant de voir que des personnes ayant déjà enduré tant de souffrances sous le joug de Boko Haram sont condamnées à subir de nouvelles graves atteintes aux droits humains commises par l'armée nigériane, a déclaré Ozai Ojigo, qui est la directrice d'Amnesty International Nigeria. Au lieu de recevoir une protection de la part des autorités, les femmes et les filles ont été contraintes de se faire violer pour se nourrir ou ne pas mourir de faim. Alors s'ensuit, bon là on va peut-être pas tout lire, mais des descriptions effectivement de la façon de procéder de cette armée. Alors, entre autres, de nombreuses femmes ont raconté que des soldats et des membres de la CJTF, qui agit avec l'armée, avaient eu recours à la force et aux menaces pour violer des femmes dans les camps annexes, là où elles ont été placées, profitant en particulier de la faim dont elles souffraient pour les contraindre de devenir leurs compagnes, ce qui signifiait qu'elles devaient régulièrement avoir des rapports sexuels avec eux. D'après le témoignage des femmes, l'exploitation sexuelle relève d'un système bien organisé. Au vu et au su de tous, les soldats viennent dans le camp pour y avoir des rapports sexuels et choisissent des femmes et des filles très belles, entre guillemets, qu'ils conduisent ensuite aux soldats à l'extérieur. Elles ont dit avoir trop peur pour refuser les faveurs sexuelles exigées d'elles. Et bien sûr, dans ce camp, est maintenu aussi exprès un état de famine. Et donc l'Amnesty continue, la faim responsable de mort. Les personnes enfermées dans les camps annexes ont été exposées à une grave pénurie de nourriture au début 2015 et à mi-2016, date à laquelle l'aide humanitaire a augmenté. Pendant cette période, des centaines, voire des milliers de personnes sont mortes dans le seul camp hôpital de Bama. Plusieurs femmes vivant dans des camps annexes de la ville de Digva n'ont reçu aucune aide alimentaire depuis leur arrivée mi-2017 et ont témoigné de la faim, de la maladie et de la mort dans ces camps. Bon, on s'en suit différents témoignages. Donc la présidente, ils vont tous dans le même sens, la présidente donc d'Amnesty Nigeria, Ozai Ojido, continue en disant « Le fait d'enfermer des personnes dans des camps sans les nourrir correctement, alors même que les administrateurs de ces camps savaient que ces conditions provoquaient des décès, constitue une violation des droits fondamentaux et enfreint le droit international humanitaire. Les personnes qui ont laissé une telle situation se produire sont coupables de meurtre. » Parmi les femmes détenues à partir de 2015, beaucoup avaient été victimes d'enlèvements ou de mariages forcés par Boko Haram, comme on le disait tout à l'heure, déjà avant, et avaient été emprisonnées par l'armée, au lieu d'être secourues. parce qu'elles étaient considérées comme les épouses de Boko Haram. Ah oui, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que quand l'armée est intervenue pour repousser Boko Haram dans ces régions-là, il a fait fuir un certain nombre d'habitants qui n'avaient rien à voir d'hommes, qui n'avaient rien à voir avec les groupes terroristes de Boko Haram, mais il les a considérés comme étant supposés des soutiens de Boko Haram. Donc il les a enfermés, il a mis les femmes d'un autre côté et dans d'autres camps, et c'est ces femmes-là, effectivement, qui sont maltraitées. Alors Amnesty dit, il est temps d'agir, comme à chaque fois. Depuis 2015, des ONG et des organismes humanitaires signalent des violences sexuelles et des morts dans les camps accueillant des personnes déplacées dans le nord-est du Nigeria. Si les autorités ont régulièrement promis d'enquêter sur ces actes présumés, rien n'a été fait concrètement pour résoudre le problème et personne ne semble avoir été traduit en justice. On ne sait toujours pas si des enquêtes ont réellement eu lieu, car aucune conclusion n'a été rendue publique. Voilà. Donc c'est quand même absolument insupportable que des gens qui ont vécu les exactions de Boko Haram, des femmes particulièrement, mais aussi des hommes, dans d'autres circonstances, soient de nouveau maltraités avec à peu près les mêmes méthodes par les autorités officielles du Nigeria. Et je pense qu'il y a Ronan qui doit vous faire un petit appel à l'action
à la suite de ce
rapport.
Oui, parce que donc au Nigeria, la violation des droits à l'alimentation d'enfants et de femmes déplacées. Environ 230 femmes déplacées au Nigeria, groupe connu sous le nom du mouvement Gnifar, et leurs enfants risquent de souffrir de la faim, car les autorités ont cessé de distribuer de la nourriture dans le camp de déplacés où ils vivent depuis 2017. La dernière distribution a eu lieu le 18 avril et n'a même pas été suffisante pour les nourrir pendant une semaine. Les autorités du camp n'ont fait aucune annonce sur les raisons de la suspension des distributions. Aucune autre solution n'a été proposée aux femmes et à leurs enfants pour trouver de la nourriture. Cependant, Amnesty International craint que la décision du gouvernement d'interrompre les distributions de nourriture auprès de ces femmes déplacées et de leurs enfants ne vise à les réduire en silence et ne soit qu'une première étape d'une stratégie en vue de les renvoyer d'où elles viennent et d'empêcher les femmes de continuer à demander justice pour leurs époux. Et leurs époux, ces fameuses personnes que tu parlais
à l'instant. Oui, je parlais.
Car depuis 2017, à leur installation dans le camp, elles demandent la libération de leurs époux, détenus illégalement par l'armée nigériane dans le contexte des opérations menées par le gouvernement contre Boko Haram. Donc ça correspond à... En fin de compte, elles demandent la libération de leur mari, elles n'ont pas à manger, et maintenant Didier vient d'expliquer l'histoire de viol et tout.
Effectivement. C'est... Oui, vas-y.
Donc actuellement, il y a une action urgente, donc si vous êtes intéressé...
Bah, tu peux peut-être lire à ce moment-là le petit texte juste de la lettre. Hein. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez vos coordonnées par mail à amnesty.evreux@gmail.com, amnesty.evreux@gmail.com, et on vous renvoie l'action toute faite. Mais Ronan va vous lire la lettre parce que c'est vrai que.
J'avais prévu de la lire, mais tu m'as dit il faut être rapide.
Oui, non, mais là, ça va. Là, ça va. On est tranquille pour terminer l'émission. Des fois, on est un peu pris de court, mais là, c'est pas le cas. Alors, donc, voilà, vas-y, Ronan, tu lis la lettre, c'est très simple. Mais c'est pour que les gens se rendent compte de ce que ça représente.
Permettez-moi d'attirer votre attention sur la situation préoccupante dans le camp près de Maïduguri pour personnes déplacées de Bamo, où les femmes et leurs enfants du mouvement Gnifar ne reçoivent aucune distribution de nourriture depuis le 18 avril. Je vous engage à respecter leurs droits à l'alimentation et abandonner tout projet d'interruption de l'aide alimentaire aux centaines de femmes déplacées et à leurs enfants. En outre, je vous demande de suspendre conformément au droit international humanitaire et au droit international relatif aux droits humains toute initiative visant à renvoyer de force les femmes déplacées et leurs enfants dans la région de Bamo où ils ne seraient pas en sécurité et risqueraient des restrictions et leur liberté de mouvement et d'être victimes d'autres violations et des droits humains. En vous remerciant de l'attention.
C'est la formule de politesse. Donc cette lettre-là est envoyée aux autorités nigériennes, effectivement, comme à chaque fois. Et encore une fois, c'est sûr que si ces autorités reçoivent 10 lettres, ça ne leur fera pas grand-chose. Mais si elles en reçoivent des milliers, effectivement, elles commenceront effectivement à se sentir un petit peu concernées, un petit peu dans l'obligation de faire quelque chose.
Si on a le temps, je peux faire la version anglaise, non?
Non, ça apporte pas.
Ça
apporterait pas grand-chose. Bon, on va terminer notre émission par les infos locales, mais avant les infos locales, on a une information aussi d'Amnesty France, interne à la section française, mais c'est Mina qui va vous en parler.
Oui, justement, une info dont on vous a déjà parlé par rapport à une de nos militantes, une défenseuse des droits humains, Martine Landry, qui est de nouveau face à la justice demain. Demain, Martine Landry, notre militante poursuivie pour délit de solidarité, devra à nouveau se rendre devant le tribunal correctionnel de Nice. Membre du groupe local de Manteau, elle est accusée d'avoir facilité l'entrée de deux mineurs étrangers en situation irrégulière. Elle devait initialement passer devant le tribunal correctionnel de Nice le 8 janvier. mais la juge décide alors de reporter l'audience au 14 février afin de mieux étudier le dossier, notamment le circuit de la demande de protection des deux jeunes migrants d'origine guinéenne auprès de l'aide sociale à l'enfance. Cependant, l'histoire se répète quand le 14 février, le tribunal décide à nouveau de repousser l'audience de Martine Landry au 11 avril pour cette fois-ci permettre l'obtention de pièces encore manquantes et de mieux étudier celles reçues. Début avril, c'est en raison de la grève des avocats et des magistrats que le procès de Martine Landry est une nouvelle fois reporté. L'audience est fixée demain et Martine s'apprête donc à passer enfin devant le tribunal. À vos côtés, nous continuons de la soutenir dans cette épreuve. Témoignage de Martine. Je suis convaincue de la justesse de mon action. Je n'ai fait qu'appliquer le droit. Les milliers de messages de soutien que j'ai reçus m'ont beaucoup émue et me donnent de la force. Martine est accusée à tort d'avoir facilité l'entrée de deux mineurs étrangers en situation irrégulière. Or, elle n'a fait qu'attendre du côté français de la frontière deux adolescents guinéens, auparavant expulsés de manière illégale depuis la France, pour les accompagner à pied au poste de la police aux frontières. Voilà, Martine, on est avec toi pour demain.
Voilà, donc, j'ai renvoyé un petit message de soutien aujourd'hui encore une fois à Martine, on a déjà reçu plusieurs, elle est au courant qu'on parle d'elle dans nos émissions, on lui redira. Et donc le procès a lieu demain. Et c'est ce fameux, elle est accusée de ce fameux délit de solidarité. Et ça me fait penser à l'association d'idées. On a parlé du délit de solidarité à la conférence de presse qu'on a tenue à Amnesty Évreux avec d'autres associations membres du même collectif, les États généraux des migrations. C'était jeudi dernier. Et donc, c'est paru dans la presse aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez acheter, on va faire un petit peu de publicité à la presse. Paris Normandie, Aura Info qui sont parus aujourd'hui. Vous avez deux comptes rendus de cette conférence de presse et donc effectivement qui sont tout à fait intéressants à lire et dont on réclame effectivement par rapport au vote de la loi asile et immigration sur laquelle on est toujours en opposition complète et dont on réclame entre autres dans cette loi la suppression de ce fameux délit de solidarité qui va peut-être amener Martine à faire de la prison. On lui souhaite pas évidemment. Oui, et puis on va passer, il y a Sabine qui me fait signe, on va passer aux infos locales aussi. Donc infos locales, on en a plusieurs. On vous rappelle que le samedi 9 juin on est présent au festival Ça sonne à la porte. Toute l'après-midi.
À
Grosseuvre. Donc le festival, c'est de 16h.
L'après-midi, la soirée.
Hein. Oui, c'est de 16h à pas d'heure dans la nuit, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Donc on y sera avec une action, entre autres sur la Turquie et Taner Kilic, on vous a parlé tout à l'heure. Ce ne sera pas la seule, mais on aura l'action pour lui. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis, important de noter vos deux journées du mardi 19 et du mercredi 20 juin, je vous dis pourquoi. Mardi 19, on sera présent au cinéma, comme on l'avait dit, soirée débat d'Amnesty autour du film sur les réfugiés Human Flow. Et le lendemain, mercredi 20 juin, émission spéciale d'Amnesty en direct de la MJC, émission publique, vous pourrez venir nous voir, de 18h à 19h30 sur le même thème, le droit des réfugiés, puisque le 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. Voilà, donc 19 et 20 juin, conservez sur votre agenda vos dates pour nous et vos soirées pour nous. Et enfin, pour terminer nos infos locales, le dimanche 1er juillet, notre foire aux livres contient, juste devant notre local, sur la place du Faubourg Saint-Léger, toute la journée, de 10h à 16h.
Et la prochaine émission ?
La prochaine émission, t'as raison, Ronan, on l'avait noté tout à l'heure, le 12 juin, mardi 12 juin, 19h sur l'antenne de Principe Actif. Les podcasts sont disponibles en ligne, bien sûr, sur le site de Principe Actif aussi. À très bientôt, on laisse la place à notre ami du laboratoire qui est arrivé. Voilà, et on vous souhaite une bonne fin de soirée. On vous dit rendez-vous le mardi 12.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes.